Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans l'explication selon les Pères de l'Église de l'Évangile selon Saint-Luc. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 13, qui est assez court, beaucoup plus court que le chapitre 12. Sur le polycopier qui contient les chapitres 11 à 15, donc page 24. Commençons par les premiers versets, versets 1 à 5 du chapitre 13 de Saint-Luc. En ce temps-là, il y avait là quelques hommes qui lui annonçaient ce qui était arrivé aux Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et prenant la parole, il leur dit, Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, je vous le dis, mais si vous ne faites pénitence, vous périrez tous pareillement. Comme ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne faites pénitence, vous périrez tous pareillement. Donc dans ces versets, nous avons un des versets les plus importants de l'Évangile. Les prêtres citent souvent en sermon qu'il nous faut méditer. La pénitence, d'après notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas quelque chose de facultatif. Sauf pour ceux qui n'ont jamais commis de péché. Dans la pratique, cette catégorie contient exclusivement les enfants morts juste après le baptême et les adultes qui n'ont jamais atteint l'âge de raison pour des raisons physiques, par exemple. Un petit mogonlien qui a un âge mental de 3-4 ans et qui a 20 ans, bon, n'a jamais pu commettre un péché mortel, puisqu'il n'a pas l'usage de la raison, et donc dans ce cas-là, il est dispensé de pénitence. Mais tous ceux qui, comme vous et moi, nous avons commis des péchés, bien, nous sommes tenus de faire pénitence. Rappelez-vous, c'est l'enseignement des pères qu'il n'y a que deux chemins pour aller au ciel, le chemin de l'innocence ou le chemin de la pénitence. Chemin de l'innocence pour ceux qui n'ont jamais péché, chemin de la pénitence pour ceux qui ont déjà péché. Comprenons que dès que nous avons commis le premier péché mortel, eh bien, la voie d'innocence nous est définitivement fermée. D'où cette phrase, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. La pénitence est donc quelque chose de nécessaire au salut. Sans faire pénitence pour nos péchés, on ne peut pas sauver notre âme. Parfois, on pense que la confession suffit. La confession, c'est le sacrement de pénitence. Mais le sacrement de pénitence ne dispense pas de l'esprit de pénitence et de la vertu de pénitence. En fait, la vertu de pénitence est une conséquence de la vertu de justice. Hein? La vertu de justice, c'est quoi? C'est la vertu qui nous permet de rendre à chacun ce qui lui est dû, de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et puisque j'ai gravement offensé Dieu par le péché, eh bien, je dois réparer le péché, pas simplement par une confession, mais également par la vertu de pénitence. C'est pour cela que l'Église enseigne qu'après une bonne confession, le péché lui-même est enlevé, mais pas toute la peine du péché. C'est-à-dire, les conséquences du péché, elles ne sont pas toutes enlevées, et il reste la peine du purgatoire à payer. Alors, dans certains cas, si je me suis confessé avec un très grand degré d'amour du bon Dieu, une contrition parfaite, par exemple, toute la peine du purgatoire peut sauter, mais c'est relativement rare. Dans la plupart des cas, mais nous devons rajouter au sacrement de pénitence la vertu de pénitence, parce qu'encore une fois, si vous ne faites pas pénitence, nous avertit notre Seigneur, vous périrez tous. Alors, voyons un petit peu les explications données par les pères. D'abord, un texte de saint Ambroise, je pense, sur le plan mystique, ceux qui suivent le démon, n'offrent pas un pur sacrifice parce que leur prière a pour but le péché, comme Judas qui préparait sa trahison du sang de notre Seigneur au milieu des sacrifices. Donc, ces Galiléens, si vous voulez, représentent tous ceux qui vont trahir notre Seigneur Jésus-Christ. Et la première trahison, ben, c'est évidemment celle de Judas. Là encore, c'est un mystère sur lequel il faut longuement méditer. Notre Seigneur Jésus-Christ, le soir du Jeudi Saint, a voulu ordonner prêtre Judas. Et non seulement il a ordonné prêtre, mais il l'a consacré évêque, dit la tradition. Et il l'a consacré prêtre, il l'a consacré évêque, et il lui a donné la première communion, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a communié tous ses apôtres le soir du Jeudi Saint. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a donné la Sainte Eucharistie à Judas, tout en sachant parfaitement que Judas était un tas de péchés mortels. Donc la première communion de Judas était une communion sacrilège. L'ordination sacerdotale de Judas était une ordination sacrilège. La consécration épiscopale de Judas était une consécration sacrilège. Donc à sa première messe, notre Seigneur Jésus-Christ donne déjà la communion à quelqu'un qui n'est pas en état de la recevoir. Grand mystère. Pourquoi est-ce que notre Seigneur a toléré ces choses-là? Pourquoi n'a-t-il pas fait partir Judas? Il est parti un peu plus tard pour aller trahir son maître. Pourquoi notre Seigneur qui dirige tout ne l'a-t-il pas fait partir avant, pour lui éviter la confession sacrilège, l'ordination sacrilège, l'épiscopat sacrilège? Eh bien, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu payer tout le prix de sa passion. Et c'est là une partie de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu réparer pour toutes les confessions sacrilèges, toutes les ordinations sacrilèges, tous les épiscopats sacrilèges. Pensez aujourd'hui à tous ces prêtres, tous ces évêques, Qui vivent parfois dans le péché jusqu'au cou, et sur la grâce du bon Dieu, ça peut m'arriver à moi aussi, hein. Tous ces évêques, tous ces prêtres qui ont perdu la foi, qui ont oublié leur foi, et qui, au lieu de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, prêchent le chemin le plus direct pour aller en enfer. Alors, il faut méditer ces choses-là. Selon saint Bède le Vénérable, le mot Pilate, donc ce premier verset, il est parlé de Pilate qui avait mêlé le sang avec celui des sacrifices de ces hommes qui avaient été massacrés par Pilate. Et saint Bède explique que Pilate signifie la bouche de celui qui frappe du marteau, car le démon est toujours prêt à frapper. Et le sang est le symbole du péché, le sacrifice représente les bonnes œuvres. Donc le sang est à la fois le symbole du péché et à la fois le sang est versé pour réparer le péché, les deux choses. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est versé pour réparer le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ va faire office de bouc émissaire. Hein, rappelez-vous le sang des boucs dans l'Ancien Testament qui était recueilli d'un bouc qui après était envoyé mourir dans le désert. Après avoir été à moitié étranglé, on l'envoyait mourir dans le désert et on aspergeait la foule avec le sang de l'agneau qui représentait ce sang du nouvel agneau qui allait arriver dans le futur. Et ce nouvel agneau qui allait arriver dans le futur, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le sang des victimes de l'Ancien Testament représente le sang du nouvel agneau pascal, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, donc le sacrifice de la messe. De même que ce sang qu'on retrouve badigeonné sur le pourtour, sur le linteau des portes des Hébreux en terre d'Égypte, qui va les protéger de la descente de l'ange exterminateur, qui va exterminer tous les premiers-nés dans les maisons non protégées par le sang. Mais ce sang sur le linteau des portes représente le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, c'est-à-dire le sang de la messe. Donc le sang est le symbole du péché, les sacrifices représentent les bonnes œuvres. Pilate mélange le sang des Galiléens avec leur sacrifice. Quand le démon pollue les aumônes et les autres bonnes œuvres des fidèles, soit à cause d'une indulgence charnelle, soit par la recherche des louanges humaines ou autres souillures, Dieu juge l'intention et on peut pécher par défaut de droiture d'intention. Donc si j'agis, je fais même quelque chose de bon, mais à la recherche de louanges humaines, eh bien j'ai pas l'intention droite et je pêche. Si je fais l'aumône pour qu'on dise du bien de moi, mon aumône, elle ne vaut rien du tout. Non seulement elle ne vaut rien du tout, mais en plus je pêche en faisant l'aumône parce que je commets un péché d'orgueil. Donc, les gens de Jérusalem aussi, donc c'est le verset 4, notre Seigneur va parler d'une tour qui a tué des gens dans sa chute. il va parler de la dette des gens de Jérusalem. Eh bien, ces hommes de Jérusalem, écrasés par la chute de la tour, représentent les Juifs qui refusent de se repentir et qui périront dans leurs propres murs. Ça fait allusion à la destruction de Jérusalem du 14 avril au 1er juillet de l'an 71 par Titus. Donc, vous savez que toute la ville va être détruite par Titus. Il y aura plus d'un million de morts, ce qui est énorme, surtout pour l'époque. Et non seulement la ville va être détruite, le temple de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de l'Ancien Testament va être brûlé, malgré les ordres qui avaient été donnés par Titus. Titus avait donné des ordres, avait d'abord tout fait pour obtenir la reddition de la ville sans effusion de sang. Les Juifs, dans leur orgueil, se pensaient suffisamment forts pour tenir le siège. Et ils ont refusé les conditions pourtant relativement clémentes qui avaient été données par Titus. Et il a renouvelé ces conditions plusieurs fois. À chaque fois, il s'est opposé à un refus, donc il a donné l'ordre d'attaque. Il avait supplier ses soldats de ne pas détruire le temple qui était une merveille de l'Antiquité. Et un des soldats a lancé un flambeau allumé au-dessus du mur du temple et ça a mis le feu au temple. Et le temple était complètement détruit. Et malgré tous ses efforts, l'armée Titus n'a pas pu éteindre l'incendie. Et le soldat qui a mis le feu a dit après qu'il s'est senti poussé par une force divine pour détruire ce temple qui était le symbole de la destruction, de, si vous voulez, provoquée par le péché. Cela indique que l'Ancien Testament est maintenant totalement clos, pas simplement par la destruction du temple de Jérusalem, mais aussi par la destruction du rideau qui séparait le Saint des Saints du reste du temple, dans le temple de Jérusalem. Le rideau a été complètement déchiré au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc cette destruction du temple symbolise la destruction de l'ancienne alliance qui disparaît avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et l'arrivée de la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance de l'Église catholique. L'Église catholique va se substituer à l'église ancienne. C'est un peu un mystère, hein. C'est difficile d'expliquer ces choses-là, parce que c'est une question qu'on a souvent de la part des fidèles qui nous disent: mais monsieur l'abbé, est-ce que le Dieu des Juifs est le vrai Dieu? C'est pas évident de répondre à cette question, parce que la réponse est oui et non. Le Dieu des Juifs de l'Ancien Testament est le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu qui menait, par exemple, les Juifs hors d'Égypte et les a promenés pendant 40 ans dans le désert, et qui leur a donné la terre promise, et le vrai Dieu. Attention, il n'y a pas 36 dieux, il n'y a pas un dieu pour l'Ancien Testament, un dieu pour le Nouveau, c'est le même. Hein. Cependant, ce Dieu s'est incarné. Il a voulu que les Juifs viennent préparer justement l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, mais hélas, la plupart des Juifs se sont refusés l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de le reconnaître comme le Messie, l'ont fait crucifier. Mais il ne faut quand même pas oublier que l'Église catholique a sa racine dans l'Église juive, dans le sens que tous les premiers catholiques sont des convertis du judaïsme. Notre Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, étaient de race juive. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu dans son humanité naître dans une patrie juive. C'est comme ça, c'est des choses qui sont mystérieuses, mais il faut reconnaître ces choses-là. Et par le refus de notre Seigneur Jésus-Christ, le peuple est juif, si vous voulez, c'est coupé du Dieu de la Nouvelle Alliance. Et donc le Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament pour les Juifs est le vrai Dieu. Mais comme les Juifs refusent notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ étant la deuxième personne de la Sainte Trinité, si on refuse une des trois personnes de la Sainte Trinité, on refuse Dieu lui-même. C'est comme les musulmans. Est-ce que les musulmans croient en Dieu? Non. Les musulmans ne croient pas en Dieu puisqu'ils refusent un Dieu trinitaire. Le vrai Dieu est un Dieu en trois personnes. Vous voyez? C'est vrai qu'il faut prier pour la conversion de tous ces pauvres gens. Et encore une fois, ne pas oublier que pour nous, c'est encore plus grave, parce que le péché d'un catholique de tradition est encore bien plus grave, et bien plus de peine au bon Dieu, que le péché commis par un juif de l'Ancien Testament. Le même péché commis par un catholique fait beaucoup plus de peine à Dieu que le même péché commis par un musulman ou un bouddhiste. Hein. Donc, Notre Seigneur fait allusion à 18 personnes au verset 4. 18 personnes sur lesquelles qui sont mortes dans l'écroulement de la tour de Siloé. Bien, ces 18 personnes symbolisent le nom de Jésus. Parce que le chiffre 18 en grec est fait des deux lettres I et H. Et ça symbolise le nom de Jésus, I-H-S. Ça veut dire en français Jésus, sauveur des hommes. Et ce chiffre représente justement le nom de Jésus qui commence par ces mêmes lettres. Donc les Juifs périront parce qu'ils ne reçoivent pas le nom du Sauveur, et la tour est celui qui est fort comme une tour. Et notre Seigneur Jésus-Christ, Siloé, veut dire envoyé, symbole de celui qui fut envoyé par le Père, qui vint en ce monde, qui réduira en poudre ceux sur lesquels il tombe. Notre Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre rejetée par les bâtisseurs, nous dit-il, qui va devenir une pierre, une occasion de chute pour ceux qui l'ont refusé. Voyons les versets 6 à 9 du chapitre 13 de Saint-Luc. Jésus disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier. Planté dans sa vigne, il va y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupez-le donc. Pourquoi occupe-t-il encore le sol? Le vigneron répondant lui dit, Seigneur, laissez-le encore cette année, jusqu'à ce que je creuse tout autour, que j'y mette du fumier. Peut-être portera-t-il du fruit, sinon vous le couperez ensuite. Les pères ont beaucoup parlé sur ces versets, qui sont des versets importants pour chacun d'entre nous, parce que ce figuier, mes bien chers frères, c'est nous, c'est aussi chacun d'entre nous. Nous aussi, on a un figuier planté dans la vigne du Seigneur, et puis le patron, le propriétaire du champ, il vient chercher ses figues sur le figuier, il n'en trouve pas, parce que le figuier refuse de donner des fruits. Alors le jardinier va mettre de l'engrais autour du figuier pour qu'il commence à produire du fruit, mais le figuier refuse de produire du fruit. Et les fruits qui est représenté par les figues, c'est quoi? Le fruit, ce sont les bonnes œuvres. Nous sommes plantés dans la vigne du Seigneur, il faut donner des bonnes œuvres. Eh bien, si je refuse de donner des bonnes œuvres, notre Seigneur Jésus-Christ vient tous les ans, au moment de l'époque des fruits, ne trouve aucun fruit. Donc au début, il patiente et il va demander au jardinier de notre âme de mettre un peu d'engrais spirituel pour qu'on puisse commencer à donner des fruits. Mais s'il voit qu'on ne donne aucun fruit, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il va dire, mais il faut couper ce figuier qui ne sert à rien, qui prend la terre là pour quelqu'un d'autre. Donc on va le jeter. Et la Sainte Vierge va intervenir en disant, mon fils, il faut encore donner un peu de chance, laissez donc encore un peu cette année ce figuier jusqu'à ce que je creuse autour, que je mette un peu de fumier, peut-être portera-t-il du fruit, sinon vous le couperez ensuite. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, va donner les chances, les dernières, jusqu'aux dernières chances à ce figuier. Donc à notre âme, même si une âme ne donne pas du fruit, notre Seigneur Jésus-Christ pourrait venir couper ce figuier et jeter en enfer tout de suite. Il attend, il patiente. Mais il vient chercher du fruit, il attend toujours ce fruit qui n'arrive jamais, malheureusement. Heureusement, dans certains cas, le fruit va arriver. Notre Seigneur Jésus-Christ va être tout heureux de retrouver du fruit dans ce figuier. Mais si le fruit n'arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais un jour, ça sera la mort, séparation entre l'âme et le corps. Et là, ça sera trop tard. Si l'âme tombe du mauvais côté, c'est-à-dire que si l'arbre penche du mauvais côté et qu'il meurt dans cet état-là, il va tomber du côté où il penche. Un arbre ne meurt une fois qu'il est mort, va tomber du côté où il penche et pas de l'autre côté. Donc si quelqu'un, avant sa mort, vit dans le péché mortel, il peut changer que la grâce du bon Dieu commence à donner du fruit. Mais une fois qu'il est mort, c'est terminé, il ne peut rien faire. Donc s'il est mort et dans le péché mortel, il ne peut plus jamais donner de fruit. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères. Ils ont beaucoup parlé sur ce sujet. Donc ils expliquent que ce figuier, il y a plusieurs interprétations. Je viens de vous donner une des interprétations évidentes, c'est-à-dire que le figuier représente notre âme. Saint Ambroise dit que le figuier représente aussi la synagogue. Car de même qu'un arbre aux branches et feuilles nombreuses trompe son propriétaire s'il ne fournit pas les fruits promis, ainsi la synagogue juive, dont les maîtres font des œuvres sans fruits, mais s'enorgueillissent avec des paroles comme des feuilles abondantes, sont sous l'ombre vide de la loi. Bon, c'est comme, si vous voulez, un fruit qui ne contient pas d'amande. Imaginez une coque de noix qui ne contient pas d'amande. Donc, on vient chercher, le propriétaire vient chercher les noix pour trouver l'amande, et puis il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de fruits mûrs dans la coque. Eh bien, une âme en état de péché mortel représente une coque de noix sans amande. Il n'y a rien à manger dans cette coque de noix. Et à ce moment-là, on se développe sous l'ombre vide de la loi parce qu'il manque l'essentiel. La coque, ça représente la charité. Le plus exactement, la coque représente la foi et l'amande représente la charité. Donc il faut la charité. La charité va être protégée par la foi, mais la foi seule ne suffit pas. Il y a comme parfois des amandes comme ça ou des noix comme ça. Vous les ouvrez, la coque semble impeccable. Vous l'ouvrez, à l'intérieur, il n'y a rien, c'est tout pourri. Et une âme qui vit en état de péché mortel est représentée par un fruit comme ça, qui a une belle coque, mais rien à l'intérieur. Donc cet arbre est le seul qui donna des fruits à la place des fleurs. Quand le fruit tombe, il est suivi par un autre fruit. Quelques fruits d'origine ne tombent pas, car le premier peuple de la synagogue tomba comme un fruit inutile, afin que la stérilité de la vieille religion sorte le nouveau peuple de l'Église. Avec une faute d'orthographe là, ici que je n'avais pas vue, et qu'il faut que je corrige. Donc, le fruit était stérile au début. Et tous ceux qui se sont convertis, encore une fois, les prémices de l'Église catholique sont en général des convertis de l'Église juive, eh bien, ils ne donnaient pas de fruits dans l'Église juive, qui va commencer à donner du fruit dans l'Église catholique. Et donc, ce que disent les pères, de la stérilité de la religion ancienne va sortir la fécondité du nouveau peuple de l'Église. Ce nouveau peuple de l'Église, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique. Passons à la page 25. Donc les premiers à quitter Israël vinrent d'une branche naturellement plus forte à l'ombre de la loi et de la croix, et de leur sein sortit comme le double jus d'une figue mûre, surpassant tous les autres par la grâce de ses fruits excellents. Il a été dit d'eux, vous serez ainsi 12 trônes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ veut que notre âme donne du fruit. Et ces fruits, je vous l'ai déjà dit, représentent les œuvres de la foi. N'oubliez pas qu'une foi sans fruit est une foi morte. Il faut des œuvres dans la foi. Nous ne sommes pas des protestants. Les protestants pensent qu'on est sauvé que par la foi. Mais le démon lui-même, il a la foi. Il a une foi qui n'est pas formée. Il n'a pas une foi qui est alimentée par la charité. Mais il a la foi dans le sens qui croit. Il a une foi, je dirais, pas une foi naturelle, mais il croit en la présence réelle, il croit en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il demandait au démon s'il croit en la présence réelle, bien sûr qu'il y croit. Il demande s'il croit, il croit au sacrement, il y croit, et c'est pour ça qu'il cherche par tous les moyens à les détruire. Pourquoi est-ce que vous croyez que le démon a obtenu la destruction de la messe? C'est parce qu'il sait très bien que la messe amène le Saint-Sacrement sur l'autel. Et donc il fait tout pour détruire cette messe, donc il croit, mais il n'a pas la charité. On n'est pas sauvé par la foi, on est sauvé par la charité, mais la charité est alimentée par la foi, parce que la foi et la charité sont unies, dans le sens que la charité ne peut pas survivre, ne peut pas exister et persévérer sans l'existence de la foi et de l'espérance d'ailleurs. Et n'oublions pas aussi que le plus important c'est donc la charité, mais la charité est également des trois vertus théologales la plus fragile. La charité est détruite par le moindre péché mortel, alors que la foi et l'espérance demeurent ficelées au corps, ficelées à l'âme. On ne perd pas la foi et l'espérance comme ça. On perd la foi et l'espérance après des années, après avoir multiplié les péchés mortels contre la foi et l'espérance, on finit par perdre la foi et l'espérance. Mais la foi et l'espérance sont absolument nécessaires, parce que si j'ai perdu la foi et l'espérance, comment voulez-vous que j'aille me confesser? C'est ça le drame, c'est que quelqu'un qui a perdu la foi et l'espérance n'est plus capable de se confesser, il ne peut plus se confesser, parce qu'on a besoin de la foi pour se confesser, pour faire une bonne confession. Donc reprenons les textes des pères de l'Église. Le figuier, donc, a plusieurs sens. Donc ce figuier qui est planté dans la vigne, qui doit donner du fruit et qui n'en donne pas, représente la synagogue des Juifs que Dieu planta par Moïse, disent les pères. Et c'est par elle que le Christ vint, par son incarnation, pour la cultiver par sa prédication. Donc le gardien du figuier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le jardinier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et qui s'est incarné pour obéir à son Père. Donc, le propriétaire du champ, c'est Dieu le Père, et le jardinier, c'est Dieu le Fils, qui donne sa vie pour le figuier, pour que le figuier donne du fruit. Et celui, donc, notre Seigneur va littéralement arroser de son sang le figuier stérile. Donc ce fumier qui est mis autour du pied de l'arbre pour essayer de donner une force nouvelle à cet arbre pour qu'il puisse donner du fruit, c'est le sang divin que notre Seigneur Jésus-Christ va verser au cours de sa passion. Donc c'est C'est pour la synagogue que le Christ est venu par son incarnation, pour la cultiver par sa prédication. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour transformer la synagogue de l'Ancien Testament en église catholique. Il est donc le gardien de la vigne, disent les pères, c'est-à-dire le gardien de la synagogue, à qui Dieu dit « Coupez-la, car cela fait 3 ans que vous lui prêchez. J'ai cherché des fruits de foi et de bonnes œuvres, je n'en ai pas trouvé à cause de l'infidélité, de la perversion, de la malice des Juifs. » Heureusement, beaucoup des Juifs se sont convertis. Vous voyez, il faut prier pour tous ces pauvres gens. Pensez à ces gens qui sont autour de nous en France. Il y en a des millions et des millions. On ne sait pas combien il y a de musulmans en France, peut-être 11 millions ou 12 millions. Des gens qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont les créatures de Dieu, bien sûr. Tous les musulmans sont les créatures de Dieu, comme tous les hommes, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu parce qu'il leur manque le baptême, bien que M. Bergoglio dise le contraire. Mais pensez à tous ces gens qui vont se retrouver les mains vides le jour où ils vont passer devant Dieu, parce que ces musulmans, comme tout le monde, ils vont être jugés par Dieu. Donc, que notre Seigneur Jésus-Christ n'ait pas à dire la même chose à propos de mon âme. Couper cette âme, ça fait 3 ans que je lui prêche, j'ai cherché des fruits de foi et de bonnes œuvres dans cette âme et je n'en ai pas trouvé à cause de l'infidélité, de la perversion, de la malice de cette âme. C'est pas simplement des Juifs dont notre Seigneur Jésus-Christ parle, attention, il parle aussi des catholiques. Et encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ va davantage souffrir de péché des catholiques que du péché des Juifs. Pas oublier ça. Alors, saint Ambroise, un texte magnifique. Je cite certaines phrases de saint Ambroise, l'évêque de Milan, celui qui a converti saint Augustin. Des phrases magnifiques sur ce figuier donc, qui représente justement la synagogue. Alors, voilà ce que dit saint Ambroise. Citation. C'est des textes qui ont 1600 ans, hein, qui n'ont pas pris une ride. Donc, le figuier représente justement la synagogue parce que c'est un arbre qui porte beaucoup de feuilles, mais qui désappointe son propriétaire par l'absence de ses fruits. On voit souvent ça. Moi, j'ai à côté de chez moi, ici, sur un muret, ça ne sort même pas 200 mètres de chez moi, il y a un figuier. Et j'ai remarqué que ce figuier, il y a beaucoup de feuilles, larges feuilles, grosses feuilles de figuier, mais il n'y a pratiquement jamais de figues. Et quand il y en a, elles restent toutes petites, elles durcissent et elles tombent. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas doué dans ce domaine, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que c'est le cas dans beaucoup de figuiers. C'est un arbre donc, qui porte beaucoup de feuilles, mais qui désappointe son propriétaire. Propriétaire, c'est notre Seigneur, par l'absence de ses fruits. Deuxièmement, les docteurs de la synagogue ne portent aucun fruit de bonnes œuvres et se gargarisent de mots comme de feuilles inutiles, alors que l'ombre vaine de la loi fleurit avec exubérance et que le faux espoir des fruits trompe les prières du peuple. Dieu demande des bonnes œuvres. Rappelez-vous ce que dit l'apôtre saint Jacques, une foi sans les œuvres est une foi morte. Donc s'il manque la foi, avec les œuvres, ben, la foi ne vaut plus rien. Les œuvres, c'est la charité. La charité, c'est l'amour du bon Dieu. Et n'oubliez pas que le premier amour du bon Dieu qu'on doit avoir dans notre âme, c'est l'amour de la vérité. Donc l'amour du bon Dieu, est-ce qu'il est possible d'avoir dans notre âme l'amour du bon Dieu sans avoir en même temps l'amour de la loi divine? C'est impossible. Donc la charité est une vertu surnaturelle, une vertu théologale, qui va nous donner les grâces dont nous avons besoin pour accepter la loi divine. Donc la foi pour croire, accepter les commandements, l'espérance pour prier, accepter les demandes du Notre Père, et la charité pour remplir la loi du bon Dieu. Donc je reprends, parce que j'ai fait une erreur. La foi pour croire l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le credo, pardon. Donc l'enseignement du credo, je crois en Dieu. L'espérance nous donne la possibilité de prier, donc ce sont les demandes du Pater, du Notre Père, et la charité nous donne le moyen de mettre en pratique cette foi et cette espérance, c'est-à-dire donner des fruits au figuier, et la charité va nous permettre de remplir la loi du bon Dieu. La loi du bon Dieu, ce sont les commandements. Donc la foi pour croire, l'espérance pour prier, et la charité pour obéir à la loi du bon Dieu, c'est-à-dire remplir la loi des 10 commandements. Hein. Si je fais des tas de choses, un tas d'œuvres, mais que je ne vis pas en état de grâce, ben, tout ce que je fais ne vaut absolument plus rien. Troisième raison donnée par saint Ambroise, la figue ne donne au début qu'une masse verte immature, au lieu de donner des bourgeons. Et cette masse grosse comme un haricot va tomber et laisser la place à un fruit solide et savoureux. De la même façon, la synagogue au début ne produira que des juifs, fruits verts et évanescents, mais par le Christ donnera des chrétiens figure mature et savoureuse. Donc la synagogue, si vous voulez, c'est la terre nourricière qui a donné l'Église catholique. Il devrait y avoir un lien, et il y a un lien historique, il y a un lien spirituel entre la synagogue juive et l'Église catholique, dans le sens que l'Église catholique est le résultat de la synagogue de l'Ancien Testament. Mais avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, au moment où notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix, la synagogue juive disparaît, elle a rempli son rôle, le rôle de fondation, et la synagogue ayant disparu, l'Église catholique va prendre le relais, et donc la synagogue aujourd'hui est devenue une religion mortifère. Pourquoi ? Parce que la synagogue juive n'a plus de raison d'être, elle est remplacée par l'Église catholique. C'est ce qu'ont enseigné tous les pères de l'Église. Donc pour d'autres personnes, d'autres pères de l'Église, le figuier représente la méchanceté et la trahison. Donc nous sommes à la page 25. Quatrième paragraphe, tropologiquement, sens tropologique, je vous rappelle, c'est le sens moral. Passage de l'Écriture sainte explique ce que nous devons faire. Donc la figue symbolise toute personne. Tout le croyant, le jardinier, c'est le Christ, et les apôtres, le maître et Dieu le Père ou la Sainte Trinité. Le fidèle est comparé à la figue, donc j'ai déjà expliqué. Donc Dieu le Père envoie le Fils pour récupérer les fruits de l'arbre. Donc le Fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est envoyé par Dieu le Père pour mourir sur la croix, et par son sang, venir irriguer les âmes qui meurent de soif. Donc le sang du Christ va venir abreuver des âmes qui étaient complètement mortes de soif. Et donc ce fumier qui va être placé autour du tronc de l'arbre pour redonner de la puissance, de la force à l'arbre, représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, donc toute la passion. Et évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ va obéir à son Père. Il était obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il va obéir à son Père et venir mourir sur la croix pour nous sauver. Mais il est évident que malheur à celui qui refuse d'utiliser ce sang rédempteur. Donc, il s'agit, comme notre Sainte Vierge Marie, d'être au pied de la croix et d'utiliser le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui refusent le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ne vont pas pouvoir donner du fruit. Et donc, ce jardinier, c'est le Christ, donc, qui va supplier à deux genoux, il va supplier son Père d'être patient pour essayer de sauver davantage d'âmes. Hélas, la plupart des âmes se moquent de Dieu. Donc je répète ces symboles. Le figue représente le croyant, le jardinier et le Christ, les apôtres. Le maître, Dieu le Père, qui envoie le Fils récupérer les fruits, la Sainte Trinité, et le fidèle, la figue. Alors, cette figue produit un fruit doux comme le miel et le sucre. Le figuier est un arbre bas, ce n'est pas un arbre qui monte très haut, et est symbole de l'humilité des justes. Pas d'humilité, impossible quand ça va à la foi. La foi et l'espérance doivent se nourrir sur la terre de l'humilité. L'humilité va donner naissance à la foi et l'espérance, et de cette foi et de cette espérance, la charité va pouvoir croître. Oui, pour expliquer les racines, ou le terreau sur lequel va pousser le figuier, le terreau c'est l'humilité, les racines sont représentées par, et l'arbre sont représentés par la foi et l'espérance, c'est-à-dire le terreau sur lequel pousse le figuier c'est l'humilité, les racines représentent la foi, l'arbre lui-même représente l'espérance, et le fruit représente la charité. Il faut que ce fruit soit mûr, parce qu'une figue verte ça fait grincer les dents, ça nourrit pas. Le figuier donne deux fois de fruits, d'abord en été, puis en automne, disent les pères, comme le juste qui donne une ample provision de bonnes œuvres. L'ombre donnée par les feuilles représente la vertu de charité, par laquelle les justes protègent les autres. C'est pour cela que dans Terre Sainte, il y a des figuiers partout. Et parce que c'est un arbre qui donne, qui monte pas très haut et qui a des larges feuilles, donc qui protège de son ombre les gens qui prennent refuge sous cet arbre. Souvent des tonnelles en Terre Sainte, avec des figuiers, comme en France, dans le sud de la France surtout, il y a des tonnelles avec des vignes, parce que la feuille de la vigne est une feuille assez large, et surtout la vigne vierge par exemple, on va couvrir la tonnelle d'une vierge ou d'une véritable vigne, Et pour que cette vigne puisse donner le long, à ce moment-là, on peut mettre les chaises et la table pour l'apéritif sous la tonnelle. Alors, le figuier n'est jamais greffé, disent les pères, à cause de sa douceur excessive. Ainsi, le juste ne s'appuie sur personne, sauf sur Dieu et sur sa propre conscience. Si le figuier perd son écorce, il devient stérile et il se dessèche. De même, les justes qui ne sont plus protégés par l'écorce d'une conversation honnête, par la modestie et la décence, apporteront plus de fruits à leurs prochains. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des feuilles et de donner de l'ombre. Ça, c'est la première étape. Et ça ne suffit pas. Il faut que la deuxième étape arrive, l'apparition des figues. Et ça ne suffit pas encore parce que si la figue ne mûrit pas, elle ne va pas devenir un fruit mangeable. Donc, il faut que le fruit puisse mûrir. Et devenir, à ce moment-là, nous dit, comme disent les pères, doux comme le miel et le sucre. Figuier a les propriétés médicales, disent encore les pères, et soigne les maladies, comme Isaïe a guéri Ézéchias avec une figue dans l'Ancien Testament. Selon Pline, la figue a des vertus médicinales. Ainsi, le juste, s'il est parfait et mature dans sa vertu, soigne les infirmités des autres par son enseignement, ses conseils et sa vie sainte. Donc la figue est un moyen de monter l'âme vers le bon Dieu. Il est nécessaire cependant de tailler le figuier. On ne peut pas le greffer, mais on peut le tailler pour remédier à cette trop grande luxuriance qui donne des fruits et pas simplement des feuilles. Ainsi, le juste, par la circoncision, la mortification des désirs de l'honneur en haut, des appétits sensuels en bas, par la méditation sur la mort et l'ensevelissement, va donner du fruit et, en vertu et bonnes œuvres, convertissant ainsi beaucoup d'âmes à Dieu. Donc, il faut tailler le figuier, et ça, c'est la vertu de pénitence. Je vous ai expliqué que la vertu de pénitence était nécessaire au salut. Celui qui ne fait pas pénitence, rappelez-vous le verset. Verset 5 du chapitre 13 de Saint-Luc, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Alors Saint-Bède le Vénérable explique que le Seigneur lui-même, qui a établi la synagogue par Moïse, est venu dans la chair et il y a souvent prêché, et cherchant des fruits de la foi, il n'en a trouvé aucun dans les cœurs des pharisiens. Pendant 3 ans, il est venu en vain chercher des fruits dans le figuier. Il est venu chez Abraham, il est venu chez Moïse, il est venu en Marie sous le sceau de l'Alliance, il est venu dans la loi, il est venu dans le corps. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ va également venir dans notre âme demander du fruit. De même qu'il a demandé du fruit dans l'Ancien Testament, il va demander du fruit ici-bas. Donc ce corps, je pense ici que c'est le corps mystique. C'est-à-dire le corps mystique, c'est l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ va venir trouver les membres de l'Église, l'Église militante. Et dans cette Église, de cette Église militante, il va exiger des fruits abondants. Donc nous reconnaissons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ par ses dons. Donc il y a 3 dons, disent les Pères, en bas de la page 25, la purification, la sanctification et la justification, donc purification par toutes les cérémonies de pénitence de l'Ancien Testament, toutes les cérémonies de purification en général, surtout la circoncision, et puis toutes les lavements des mains, les cérémonies de nettoyage corporel qui symbolisaient le nettoyage spirituel. Donc la purification est la première étape qui va mener à la sanctification par la pratique de la loi, et enfin la justification par la pratique de la grâce. Donc, les Juifs n'ont pas pu être purifiés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la circoncision du cœur. Ils avaient simplement une circoncision corporelle. Ils pensaient que ça suffisait. Mais il faut être circoncis spirituellement parlant. Le baptême est une circoncision spirituelle. Chaque fois qu'on se confesse, on pratique une circoncision spirituelle, c'est-à-dire une purification de notre âme. Les Juifs ne purent pas donc être purifiés, ne purent pas non plus être sanctifiés, car ils ignoraient le vrai sens de la loi. Ils suivaient les choses charnelles plutôt que les choses spirituelles. Ils ont voulu matérialiser la loi du bon Dieu. Ils s'attachaient qu'aux choses purement matérielles. Par exemple, quand Dieu disait il faut garder toujours sur sa tête le rappel des commandements du bon Dieu. Alors, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut garder dans son intelligence la loi divine, la méditer sans cesse. Eh bien, les Juifs qui n'avaient pas compris ces paroles au sens mystique, ils vont les comprendre au sens physique simplement, donc vont prendre des petits rouleaux de papier, vont écrire la loi du bon Dieu ou les commandements de Dieu sur ces papiers, ils vont se maintenir ces petits cubes de papier dans une petite boîte en carton et se maintenir ces cubes de papier sur le front. Vous voyez, c'est pas ce que demande notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ ne demande pas une circoncision physique, il demande une circoncision spirituelle. Enfin, les Juifs ne purent être justifiés. Donc, trois choses sont nécessaires, purification, sanctification et justification. Ils ne purent pas non plus être justifiés, car ils ne regrettaient pas leurs offenses et ne connaissaient rien de la grâce. Et c'est pareil pour nous. Nous aussi, on peut rater notre purification, notre sanctification, notre justification. Attention, on doit se purifier pour se sanctifier, on doit se sanctifier pour être justifié. Donc la purification mène d'abord à la sanctification, la sanctification à la justification. Donc la purification nécessaire par la vertu de pénitence amène à la sanctification par la pratique de la loi du bon Dieu. Et cette pratique de la loi du bon Dieu et l'aide des sacrements va nous amener à la grâce sanctifiante par la justification. Donc le Christ promit que la dureté des cœurs des Juifs serait creusée par les bêches des apôtres, de peur qu'une motte de terre ne couvre et n'obscurcisse la racine de la sagesse. Et c'est une belle phrase des pères de l'Église. Donc en bêchant la terre, c'est la grâce de l'humilité qui permet même au figuier de porter du fruit par l'évangile du Christ. Si la terre est trop dure au pied du figuier, le figuier ne va pas pouvoir recevoir de l'eau. L'eau ne va pas s'infiltrer correctement à cause de la sécheresse de la terre. Et du coup, l'arbre va mourir. Donc, si le figuier ne porte pas de fruits, il sera alors coupé et jeté. Bon. C'est le symbole du peuple juif et qui a refusé notre Seigneur Jésus-Christ et qui, malheureusement, a été coupé de la véritable Église, de l'Église catholique. Ça, c'est toujours une très grande joie pour moi de baptiser quelqu'un qui n'est pas catholique. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'honneur de baptiser un jeune homme qui a fait la retraite avec moi, d'origine juive. Par son père et que j'ai pu baptiser, qui est devenu maintenant, avec la grâce du bon Dieu, un bon catholique. Je suis régulièrement en contact avec lui par message, qu'il habite loin d'ici, et il me dit souvent sa joie d'être catholique et maintenant de pouvoir utiliser le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, d'assister à la Sainte Messe. Tout ça, c'est des choses magnifiques. C'est une plus grande joie du prêtre, c'est certainement de baptiser des adultes. Bon, j'ai aussi une grande joie de baptiser un bébé, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand je baptise un adulte, je trouve que c'est encore plus beau que de baptiser un bébé. Parce qu'on baptise le bébé, mais on verra les fruits de ce baptême des années plus tard. Lorsqu'on baptise un adulte, on voit les fruits du baptême tout de suite. Et c'est splendide de voir un jeune homme ou une jeune femme, ou une personne, qui vient faire la traite, qui n'est pas catholique, qui est prête à être baptisée parce qu'elle a déjà bien préparé son catéchisme, bien étudié son catéchisme. 5 jours plus tard, elle quitte la retraite avec une âme toute propre, toute purifiée par la grâce du baptême. Donc, méfions-nous et arrangeons-nous pour porter du fruit, parce que si nous ne portons pas de fruit, ben, notre âme sera coupée et jetée au feu. Comme a dit notre Seigneur, si cet arbre ne porte pas de fruits, eh bien vous pourrez le couper, parce que les vignerons, laissez-moi encore cette année, jusqu'à ce que je creuse tout autour, que j'y mette du fumier autour de cet arbre, peut-être portera-t-il du fruit, sinon vous le couperez. Ensuite, si vous le couperez, vous le jeterez au feu, c'est le symbole de l'enfer. Selon saint Eutymius, en bas de la page 25, les 3 années... C'est le verset 7. Voilà, 3 ans que je viens chercher des fruits. C'est le temps de la vie publique de notre Seigneur. Les 3 années représentent les 3 états politiques des Juifs, sous les juges, les rois, les grands prêtres, c'est-à-dire sous les Maccabées. Et selon saint Augustin, le figuier représente toute la race humaine. Car le premier homme, après qu'il eut péché, cacha sa nudité avec des feuilles de figuier. On voit ça dans l'Écriture sainte. Au début, avec la prévarication d'Adam et Ève. Donc chacun de nous, c'est la conclusion de saint Augustin, chacun de nous est un figuier planté dans le vignoble de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église, dans le monde. Un figuier doit donner des figues. Un figuier qui ne donne pas de figues, ça ne sert strictement à rien. Alors, les pères de l'Église se sont posé cette belle question, de savoir mais pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ parle-t-il de 3 ans. Sur la 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier, je n'en trouve pas. Qu'est-ce que représentent ces 3 ans? Eh bien, Père de l'Église, Saint Grégoire le Grand, entre autres, explique que notre Seigneur Jésus-Christ va venir 3 fois au figuier, c'est-à-dire à notre âme. D'abord sous la loi, avant la loi, puis sous la loi, et après avec la loi de la grâce. Avant la loi, c'est-à-dire avant au temps d'Adam et Ève, puis sous la loi mosaïque, et sous la grâce, c'est-à-dire avec le catholicisme. Voilà le texte, page 26 en haut de la page. Le Seigneur vint trois fois au figuier, prenant soin de la nature humaine avant la loi, sous la loi et sous la grâce. Et il l'a fait en attendant, en visitant, en admonestant avec patience, parce qu'il est bon, il est compatissant, il est patient, il est riche en miséricorde, me dit le prophète Joël au mercredi décembre. Mais notre Seigneur se plaint qu'il n'y trouva aucun fruit pendant 3 ans, car les cœurs de certains hommes pervers ne se corrigent et ne se convertissent ni par la loi de la nature entée sur eux, ni par les préceptes qui les instruisent, ni par les miracles de son incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ devient homme, notre Seigneur Jésus-Christ prend une nature souffrante, notre Seigneur Jésus-Christ crucifie sa nature humaine souffrante, notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts pour prouver sa divinité, notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel, nous envoie le Saint-Esprit, malgré cela, beaucoup de gens ne se convertissent pas. Alors notre nature ne donne donc aucun fruit. D'abord parce que nous avons transgressé le commandement de Dieu au paradis terrestre, ça c'est avant la loi. Nous avons adoré le veau d'or sous la loi, hein. Et puis nous avons rejeté le Sauveur sous la grâce. Donc c'est bien plus grave de rejeter le Sauveur sous la grâce que de rejeter le Sauveur sous la loi. Et c'est encore bien plus grave de rejeter le Sauveur sous la grâce que de rejeter le Sauveur avant la loi au moment du paradis terrestre. Parce que Adam et Ève ignoraient beaucoup de choses. Ils avaient une science infuse. Mais ils n'avaient pas la science infuse sur tout. Ils avaient la science infuse sur certaines choses. Ils avaient, d'après les pères, une certaine idée déjà de l'incarnation, de la rédemption, même peut-être de la Sainte Trinité, mais ils n'avaient pas des choses précises. Par contre, ils savaient toutes les connaissances physiques dont ils avaient besoin. Vous voyez, c'est une idée qui est importante à développer. Je n'ai pas trop le temps maintenant, mais j'ai remarqué que dans les milieux scientifiques, trop de science donne l'orgueil, c'est terrible. Dans les milieux scientifiques, j'ai remarqué que les gens se croient très, très malins, très intelligents, parce qu'ils ont une connaissance des choses scientifiques. Et dans les milieux scientifiques, surtout, ils sont persuadés que l'homme, au début, était un animal des cavernes, une espèce de demi-bête, et qu'il est devenu super intelligent, parce qu'aujourd'hui, on joue avec l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques. Mais donc, ils croient qu'il y a une évolution constante depuis les petits protozoaires du début, la soupe primitive, comme ils disent, le Big Bang, comme ils disent, des inventions invraisemblables. Et donc le Big Bang, avec une énergie considérable, Dieu seul sait d'où elle vient. Oui, enfin, il n'y a que Dieu qui sait pratiquement d'où elle vient, cette énergie. En fait, le Big Bang, c'est une gigantesque fumisterie. Mais ils expliquent ça comme ça. Ça a donné les premiers acides aminés, puis les premiers protozoaires, puis ça a donné un polytechnicien. Et donc, ils pensent qu'il y a une progression vers le haut, au niveau intellectuel, que l'homme moderne devient de plus en plus intelligent. Et en fait, c'est l'inverse. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève avec la science infuse. Ils avaient, attention, ils avaient ces dons préternaturels, ils avaient l'impassibilité, ils avaient l'immortalité, ils avaient la science infuse. Ils avaient la soumission, un ordre, si vous voulez, dans leur âme. Les passions étaient contrôlées par la volonté qui était contrôlée par l'intelligence. Malheureusement, le bon Dieu leur a aussi donné la liberté, ils l'ont très mal utilisée. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Adam et Ève avaient une intelligence tout à fait supérieure, largement supérieure aux nôtres. Non, vous allez me dire, mais ces dons extraordinaires, les dons préternaturels, notamment le don de science infuse qu'avaient Adam et Ève, il a disparu avec le péché originel. C'est vrai, mais les pères de l'Église font remarquer que même si ces dons ont disparu, Adam et Ève ont perdu avec le péché originel, ils ont perdu l'impassibilité, l'immortalité, la science infuse. Ils ont perdu tous ces dons. Et cette soumission également de la volonté à l'intelligence, à l'intelligence à Dieu, ils ont perdu tout ça. Mais les premiers hommes qui sont descendus d'Adam et Ève avaient encore une partie de ces dons, au moins une partie. Ils ont gardé une intelligence tout à fait supérieure. Et ce qui explique que ces civilisations antédiluvienne, d'avant le déluge, avait en fait une intelligence tout à fait supérieure à la nôtre. On le voit, par exemple, très bien. Moi, j'ai vu ça dans certains temples établis par certaines civilisations très anciennes. Entre autres, on voit un peu ça chez certaines civilisations après le déluge. Mais en Égypte, par exemple, on voit ça aussi avec les civilisations antidéluviennes. Prenez par exemple les pyramides, qui sont d'une hauteur phénoménale, avec des blocs de plusieurs tonnes qui ont été transportés depuis des kilomètres et des kilomètres depuis Assouan, qui ont été transportés vraisemblablement par bateau, des blocs qui sont des blocs qui pèsent plusieurs tonnes et qui sont assemblés avec les moyens de l'époque au micron près. On ne peut pas passer une feuille de cigarette entre les blocs. Alors, quand on demande dans ces pays-là, on demande aux guides des touristes qui prennent les touristes pour des imbéciles, que les touristes demandent, mais comment ça s'est fait tout ça? Ah ben, c'est que les Égyptiens, ils taillaient les blocs de pierre avec un galet, un bout d'une espèce de clou de cuivre, et ils taillaient les rocs comme ça. On va nous faire croire qu'avec un galet et un clou de cuivre, on pouvait tailler un bloc de dizaines de tonnes pour qu'il se joigne au bloc précédent, au micron près. Enfin, c'est du n'importe quoi. Alors les scientifiques, soi-disant scientifiques, se posent des tas de questions, comment ça a pu être possible, ils cherchent à trouver des solutions. La solution est toute simple, c'est que ces gens avaient des techniques qu'on a perdues, tout simplement. Alors, vous allez dire qu'ils étaient bien plus intelligents que nous, mais vraisemblablement, parce que si c'était des civilisations antidéluviennes, ils étaient beaucoup plus proches de notre père à tous, à savoir Adam, et donc avaient une intelligence supérieure à la nôtre. Vous savez, on est devenu un peu bête aujourd'hui, hein. C'est pas parce qu'on joue avec les ordinateurs, encore une fois, qu'on est devenu intelligent, hein. Quand vous voyez le niveau intellectuel, par exemple, des lecteurs de la Somme théologique de saint Thomas au Moyen-Âge, puisqu'il est mort en 1274, et qu'on réalise que ce livre, la Somme théologique de saint Thomas l'a écrit pour des débutants, ça laisse un peu rêveur, parce qu'aujourd'hui, un débutant en théologie est incapable de comprendre un traitement de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Il faut l'étudier pendant des années et des années pour la comprendre. Manifestement, les étudiants en théologie du temps de saint Thomas d'Aquin étaient 10 fois plus intelligents que nous. Je veux dire, c'est pas très difficile. C'est vrai, mais enfin, quand même. Vous voyez, donc il faut pas. Moi, je crois à l'évolutionnisme, mais je crois à un évolutionnisme négatif. Je ne crois pas que l'homme descende du singe, mais je crois que de l'homme, le singe peut arriver. D'ailleurs, ça se voit de plus en plus. On peut vraiment se poser des questions. L'homme devient de plus en plus bête. Mais qu'un homme puisse venir des protozoaires, j'y crois pas. Parce que l'homme a été créé par Adam et Ève, même si ça ne plaît pas à ces messieurs modernes. Donc les 3 années dont parle notre Seigneur, dans les 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier, je n'en trouve pas. Donc ces 3 années représentent les 3 âges de la vie. Donc l'âge de l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Bon, la page 26. Nous devrions en effet apporter à Dieu à tout moment les fruits de vertu proportionnés à l'âge de chacun. Soit à l'enfance, soit à l'âge adulte, soit à l'âge de la vieillesse. Car Dieu, qui déteste l'oisiveté, exige des œuvres de tout âge. Donc par le gardien du vignoble, il faut voir, pas simplement notre Seigneur Jésus-Christ, mais tous ceux qui le représentent directement, soit les évêques en charge de l'Église, et qui s'occupent du vignoble du Seigneur. Donc l'ordre des évêques s'occupe du vignoble du Seigneur. C'est le rôle de l'évêque, garder le dépôt de la foi dans son diocèse. C'est le rôle du pape de garder le dépôt de la foi. Évidemment, aujourd'hui, on a un mal fou à comprendre ça, parce que celui qui se présente comme pape, le pape de l'Église de Vatican II, il fait tout pour détruire le dépôt de la foi. Mais il faut comprendre ce que c'était qu'un pape, hein. Vous voyez la dignité, par exemple, du dernier pape, à savoir Pie XII. Pie XII n'avait de cesse que de garder le dépôt de la foi. Vous voyez tous ces grands pontifes surtout, j'ai une grande admiration pour le pape Pie IX, par exemple, tous ces grands pontifes qui ont fait une œuvre missionnaire extraordinaire, parce qu'ils ont gardé, au prix de leur sang d'ailleurs, ils ont gardé la foi catholique, et ils ont protégé la foi, ils sont gardiens du dépôt de la foi, de façon extraordinaire. Aujourd'hui, le rôle de Bergoglio, c'est de détruire la foi, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a l'interprétation des pères. Donc, le gardien du vignoble représente notre Seigneur Jésus-Christ, représente l'ordre des évêques, hein, qui sont successeurs des apôtres. On dit que Les évêques sont successeurs des apôtres, le pape est successeur de Saint-Pierre, les évêques sont successeurs des apôtres et les prêtres sont successeurs des disciples. Pour d'autres personnes, d'autres pères, le maître de la maison est Dieu le Père. Le jardinier, le Christ, on l'a déjà vu, ça a été répété en plusieurs endroits différemment, parlé par les pères. Donc le jardinier, c'est le Christ qui ne veut pas voir couper le figuier et qui dit au Père, bien qu'il ne, cet arbre n'ait donné aucun fruit de repentance sous la loi et les prophètes, je vais l'arroser avec mes souffrances et mes enseignements et peut-être qu'il donnera des fruits d'obéissance. Mais les souffrances et les enseignements du jardinier, ce sont les souffrances de la passion, les enseignements de sa vie publique. Les enseignements de la vie publique pendant 3 ans, puis les souffrances infinies de notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, le jeudi saint au soir, toute la nuit, le jeudi au vendredi saint, et sa mort sur la croix. C'est une belle phrase. Je répète cette phrase, les pères donc, qui font parler le jardinier de notre âme. Cette âme n'a donné aucun fruit de repentance sous la loi et les prophètes, mais je vais l'arroser avec mes souffrances, avec ma passion, par mes enseignements, et peut-être qu'il donnera des fruits d'obéissance. Donc il faut bêcher la terre. C'est le texte. Je vais bêcher, je vais creuser autour, je vais mettre du fumier autour du tronc de cet arbre. Il faut bêcher la terre, c'est renseigner l'humilité et la patience, car le sol a été creusé en bas. Le fumier symbolise les vêtements sales qui donnent du fruit, car ces vêtements sont la contrition, les gémissements des pécheurs, c'est les vêtements déchirés de celui qui a le cœur contrit devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire contrition? La contrition, ça veut dire le déchirement. J'explique souvent quand je prêche les exercices, quand je parle des préparations confession, j'explique souvent le rôle justement de la contrition. La contrition, conterere en latin, c'est la destruction. Ça veut dire l'écrasement du péché sous le poids du regret, le poids de la douleur. Une douleur qui doit être interne, qui doit être surnaturelle, qui doit être suprême. Et qui doit être accompagnée d'une fuite des occasions de péché, évidemment. Qui doit être surtout surnaturel, une douleur qui est purement naturelle n'écrase pas le péché. Donc il faut écraser le péché par le regret, par la contrition. C'est un petit peu le geste d'écraser une noisette sous son talon. C'est ça la contrition. Donc ces vêtements, ce fumier dont parle le verset 8, j'y mettrai du fumier autour de cet arbre. Donc ça symbolise les vêtements sales qui donnent du fruit. C'est-à-dire ça symbolise la contrition, le gémissement des pécheurs. Ainsi, ceux qui font vraiment pénitence sont habillés de vêtements sales. Ils ont la corde au cou, ils ont les cendres sur la tête et ils ont sur les reins la ceinture de la chasteté et ils ont comme habit le sac de la pénitence. Donc les péchés de la chair sont aussi représentés par ce fumier. Vous voyez, il y a plusieurs sens. Donc les péchés de la chair sont représentés par le fumier qui est répugnant, mais qui va donner du fruit, donc la contrition du pécheur. Donc, le fumier va donner la gloire. Et sur ce fumier qui représente la contrition et le gémissement de nos péchés, la douleur surnaturelle, la douleur interne, la douleur souveraine, la douleur universelle de nos péchés et qui est aussi le symbole, donc pas simplement de cette douleur, mais aussi du gémissement, contrition, gémissement, et ça va donner le fruit. Le fruit, c'est la contrition, et donc l'arrivée de la grâce sanctifiante par l'absolution du prêtre. Vous voyez comme ces textes sont beaux. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est plus important que vous ne le croyez. J'insiste pour que fassiez un effort pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet. Je ne sais pas combien de personnes. Écoute ces cours, je n'ai pas la technique pour savoir le nombre de personnes qui écoutent les cours de doctrine, des cours d'exégèse sur Internet. Je ne sais pas, il y en a beaucoup, mais je sais qu'il y en a quand même quelques-uns. Et je vous conseille beaucoup, après un cours, de relire les feuilles du polycopier qui correspondent au verset que je viens d'expliquer. Et cela va vous aider à avoir ce qu'on appelle l'esprit d'église. Surtout, en ce moment, on est en plein carême. C'est quelque chose de très important. Voilà, bon, on va arrêter là, que ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Je vous rappelle que j'ai encore des places pour les retraites de cette année. Donc vous avez les dates des retraites sur le site internet. Au moment où je fais cette conférence, j'ai encore une place pour la première retraite de Semaine Sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.